c'est encore le temps de la grâce, le plein salut, la pleine rédemption est encore là, à notre place. Jésus a expié à Golgotha. Ses souffrances nous ont acquis le salut. Nous avons trouvé par lui la paix et le repos. À toi, agneau de Dieu, sois l'honneur. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as délivrés de nos fautes et nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, roi dans ton royaume. Il n'y a pas un nom semblable au tien sur terre. Le trône de la grâce est aspergé du sang du sacrifice et le pécheur pardonné. Dieu ne pense plus à ses péchés. Tout son passé est expié. Le peuple de la nouvelle alliance est uni par son sang. À toi, agneau de Dieu, sois la gloire. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as délivrés de nos fautes et nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, roi dans ton royaume. Aucun nom est semblable au tien sur terre. Toi égaré et sans secours, viens. Le salut est là pour toi. Ce que le monde ne peut t'offrir, tu le trouves à Golgotha. La paix pour les chemins du doute. La guérison pour toutes tes douleurs. La force pour porter la croix. L'amour pour les cœurs vides. À toi, agneau de Dieu, soit la gloire. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs dans ton royaume. Aucun nom n'est semblable au tien sur terre. Je veux chanter de mon Jésus, de son amour et de sa grâce. De son amour et de ses douleurs sur la croix. et de son sang qui libère. Chante, chante, oh mon Jésus. De sa grâce, de son amour et de sa fidélité. De ses douleurs sur la croix, de son sang qui libère. Je veux louer ses miracles. Et comment est-ce qu'il sauve le pécheur? Il m'a aussi accordé son salut et m'a apporté la rédemption. Chante, chante de mon Jésus, de sa grâce, son amour et sa miséricorde. De son amour et de ses souffrances, de son sang qui libère. Je veux louer le Sauveur fidèle, son armée est sans faute. Il aide les siens. Il leur accorde la pleine victoire. Il leur donne la victoire sur l'enfer, la mort et le péché. Je veux chanter de mon Jésus, de sa grâce et de son amour et de sa fidélité, de ses douleurs, de sa mort sur la croix, de son sang qui libère. Merci. Oui, nous pouvons que dire que cet homme qui a fait ce cantique a vraiment eu une expérience avec le Seigneur. Il exprime cela d'une manière merveilleuse ici. Alléluia, c'est mon cantique. Je chante Jésus toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a répondu aux besoins de mon cœur. Est-ce qu'il a répondu aussi aux besoins de ton cœur? Oui. Il faut que cela soit ainsi. Oui. Il a expérimenté ces choses. Et il a remercié le Seigneur pour tout. Est-ce que vous avez remarqué cela? Il a remercié le Seigneur pour tout. Et nous aussi, nous devons remercier le Seigneur pour tout. Pour tout le bien. Pour tous les jours bons et mauvais. Quoi qu'il nous arrive, nous devions lui dire merci et lui apporter l'honneur en toutes choses. Je voudrais, pour l'introduction, lire une parole qui est écrite dans la première épître de Jean. Ce n'était pas seulement pour les croyants autrefois, mais nous sommes reconnaissants de ce que la parole nous a été conservée jusqu'à dans cette heure. Et nous voulons nous attacher à elle, même si la parole, comme nous l'avons entendu hier, est transformée. La Bible est transformée, mais pas pour le peuple de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu reste la parole de Dieu originale. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, sa parole. Et que sa parole est vraiment devenue une lampe à notre pied et qui reste ainsi. Pour nous, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que son nom soit loué. Dans 1 Jean, le chapitre 4, au verset 7, Jean dit les paroles suivantes. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et que cela n'est pas merveilleux, et connaît Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et c'est ce que nous avons la vie par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous sommes aussi obligés de nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Que Dieu puisse accorder sa grâce, que nous ne puissions pas seulement lire ses paroles, mais qu'elles puissent réellement en nous vivre et être réelles, qu'elles puissent m'aider, nous aider tous, c'est ma prière. Honneur et gloire soit apportée à son nom, nous voulons maintenant nous lever pour la prière et demandons ensuite aux parents de venir avec les enfants qui veulent être bénis et présentés au Seigneur, de venir devant après la prière. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour toutes ces paroles précieuses que nous pouvons lire, que nous pouvons considérer dans ce dernier temps sérieux où l'adversaire s'élève pour détruire ta parole, mais c'est justement l'heure, n'est-ce pas, comme tu l'as dit, où la loi et tout seront transformés. Mais nous voyons que nous sommes arrivés dans les derniers temps et que nous pouvons regarder à toi, nous devons regarder à toi et que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Fais-nous grâce pendant cette heure. Bénis mon frère qui prêchera ta parole. Bénis ceux qui vont écouter tous. Et que nos cœurs soient ouverts pour ta parole. Accorde ta grâce. Je te le demande dans ton merveilleux nom et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Loué et exalté soit le Seigneur. Nous sommes déjà reconnaissants à Dieu pour les cantiques, particulièrement pour le dernier cantique le chœur de la chorale, de revenir à la Bible. Ça, c'était notre cantique dans ces 10 années lors des émissions par la radio du Luxembourg. C'était toujours le commencement par ce cantique, revenir à la Bible. Et c'est ainsi que les choses demeurent jusqu'à la fin. La parole de Dieu demeure éternellement. Et même si toutes les interprétations déjà depuis longtemps seront passées et que on ne pensera plus à toutes les interprétations, la parole de Dieu, elle, demeurera éternellement. Et tous ceux qui ont accepté, qui ont reçu la parole de Dieu, resteront aussi éternellement avec la parole de Dieu éternel. Moi aussi, je voudrais saluer tous, souhaiter à tous la bienvenue, particulièrement tous ceux qui sont là pour la première fois et qui s'ajoutent. Pourrions-nous aujourd'hui demander qui de vous serait là pour la première fois pendant ce week-end? Avons-nous des frères et des sœurs ici? Levez-vous, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous voir. Soyez la bienvenue. Ici, il y a une sœur. Dieu lui a montré en songe comment est-ce que les plantes de la rue à l'entrée de la salle de réunion ici, comment est-ce que les plantes, les arbres se tiennent à l'entrée, comme ça, alignées. Et aujourd'hui, elle est ici. Que Dieu te bénisse parmi nous, bien-aimées sœurs. Le Seigneur encore montre aux siens le chemin dans lequel ils doivent marcher. Heureux ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, nous avons là-bas plusieurs frères et sœurs. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Une sœur de l'Argentine et d'où viennent les autres, je ne le sais pas exactement. Que Dieu vous bénisse parmi nous, sûrement du Chili et de partout. Que Dieu le Seigneur vous bénisse parmi nous. Ensuite, nous avons ici des bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et encore ici, une sœur et un jeune homme. Que Dieu vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse tous d'où vous venez. Et la question est toujours la suivante. Où allons-nous? Où allons-nous? Et le but est notre but commun. Nous venons de différents pays, mais nous avons tous un seul but devant les yeux. Ensuite, nous souhaitons à tous la bienvenue, tous des pays voisins, de la Tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de l'Italie, de l'Autriche, de la Suisse, de la France, de la Belgique, simplement de partout. Que Dieu le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse et qu'il soit avec nous tous. Il serait, ce qui serait à annoncer, tous nous constatons, n'est-ce pas, que l'année va aussi à sa fin, les années viennent et partent et passent. Et Dieu voulant, nous aurons encore quelques réunions le week-end prochain. Ce sera en Angleterre. Ensuite, le troisième week-end, ce sera en France. Et le quatrième week-end, ce sera en Suisse. Et ensuite, notre premier week-end ici aura lieu le 6 et le 7 janvier. Ce sera déjà le premier week-end dans la nouvelle année 2007. Donc nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Et nous avons toujours la parole devant les yeux. Donc, travaillez tant qu'il fait encore jour, car la nuit arrive où plus personne pourra travailler. Et nous avons aussi hier eu à faire mention de ce qui est fait avec la Bible. Pour un moment, représentez-vous cela devant les yeux. Si le temps restait encore, alors cela pourrait même se passer. Dieu soit remercié de ce que le temps ne va pas comme ça rester pour toujours. Il va aller à sa fin. Mais je vous dis que cela se passerait, que les traductions des temps passés, on ne les aurait plus, mais les hommes auraient seulement les nouvelles traductions. Et elles seraient seulement utilisées par les hommes. Et alors tous dans le monde entier liront, comme nous l'avons lu hier, pas baptisez-les, mais aspergez-les, etc. Ou bien notre Père et Mère qui est aux cieux. Non, imaginez-vous devant vos yeux. Où est-ce que tout cela mène? Où est-ce que tout cela mène? Où est-ce que toute l'humanité va? Et particulièrement la chrétienté, entre parenthèses, la chrétienté conduit. Et nous avons aussi entendu, n'est-ce pas, un avocat du Parti Les Verts exige que la loi du blasphème contre Dieu soit ôtée de la Constitution pour que tous puissent blasphémer Dieu selon leur cœur, comme ils le veulent. Jusqu'à maintenant, dans la Constitution de l'Allemagne fédérale, nous avons une loi qui condamne le blasphème contre Dieu. Et ce paragraphe-là devrait être ôté pour que, justement, le blasphème soit possible. Pour nous, c'est impensable, incompréhensible. Mais la grande chute, la grande apostasie et la méchanceté a atteint son point culminant. Et comme il est dit, que c'est dans ce temps-là que l'amour sera refroidi dans beaucoup. C'est pour cette raison que nous voulons rester attachés à la parole de Dieu. Ce que les hommes font, ce que les églises font, et ce que ces 42 femmes et ces 10 hommes-là ont fait en traduisant cette Bible qui, en fait, porte la responsabilité pour cette nouvelle édition de la Bible. Ils vont devant Dieu rendre compte. Notre devoir, n'est-ce pas, c'est de encore plus vivre plus proche du Seigneur et encore plus croire à la parole de Dieu et de vivre dans la communion directe, encore plus profonde avec Dieu par sa grâce. Et encore peut-être cette annonce, Dieu voulant, et que nous serons encore sur terre, il y a aussi pour la prochaine année un voyage en Israël planifié, et c'est-à-dire du lundi le 7 mai jusqu'au vendredi le 17 mai, et nous nous réjouirons si plusieurs pouvaient prendre part à ce voyage. Et nous avons encore des salutations que le frère Schmitt nous a remis, nos frères de l'Est appellent toujours de nouveau, et nous remercions Dieu de ce que le frère Schmitt, par le Seigneur, et c'est là depuis le commencement, a été de cette manière utilisé pour justement s'occuper de tout le monde russe et de leur apporter la parole du Seigneur. Nous avons les salutations de la Moldavie, de l'Ouzbékistan, de la Russie et de l'Ukraine. Et nous sommes liés avec tous dans le Seigneur. Et plusieurs frères ont appelé. Le frère Étienne a appelé. Ils écoutent. Le frère John de Bucarest a envoyé un email. Ils écoutent. Et ils ont part des frères en Afrique, au Canada et partout. Écoute en direct et on part aux réunions. Et bien sûr, nos bien-aimés frères et sœurs du Chili avec lesquels nous sommes profondément liés. Que Dieu le Seigneur, le Dieu le Seigneur a accordé réellement sa grâce jusqu'à maintenant et il continuera à le faire. Nous avons le devoir de prêcher la parole telle que elle nous a été transmise et confiée. Peut-être comme une remarque secondaire, aujourd'hui, la fille de frère Branham sera ensevelie, Rebecca, née Branham, et John Smith est connu de plusieurs de nous. Elle était, n'est-ce pas, mariée avec John Smith. Nous avons rencontré John Smith encore en Israël, à Jérusalem, lors du dernier voyage, la dernière fois. Et nous avons eu ensemble à parler de certaines choses. Et Rebecca est morte du cancer et peut sûrement voir ce qu'elle a cru. Ce qui, dans ce contexte des choses, me touche beaucoup. C'est cette réalité que le frère Branham, le 7 mai 1946, lors de son appel direct et de son envoi, il lui a été dit que rien ne pourra résister à ta prière et non plus le cancer. Et ça, c'était la chose particulière dans son ministère, et il n'y a pas plus de personnes qui ont été guéries du cancer que comme dans le ministère de frère Branham. Et c'est ainsi que nous voyons qu'auprès de Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Il n'y a pas de bien-aimés, il n'y a pas de personnes qui sont plus aimées que les autres. Devant Dieu, nous sommes tous pareils et personne ne peut choisir comment est-ce qu'il quittera cette terre et de quelle manière cela doit se passer. Nous respectons les décisions de Dieu et disons ce qu'il fait, c'est bien fait et cela reste juste sa volonté. Sa volonté juste. Heureux celui qui n'en veut pas à Dieu, qui ne lui fait pas de reproches, mais qui peut dire oui, même quand on peut citer cette parole. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des choses dans nos vies, dans notre vie, que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas saisir. Mais ensuite, le temps arrive où nous le comprendrons, où nous le verrons. Pourquoi est-ce que cela s'est passé ainsi? Remets tes voies au Seigneur et mets ton espérance en lui, il agira. Aussi avec toi, il agira. Loué et exalté soit son merveilleux nom glorieux. Aujourd'hui, nous avons un frère qui a son jour de naissance, le frère Gilbert, aujourd'hui de Paris, le frère Gilbert de Paris, de 1955, il est né en 1955, donc c'est l'année qui justement, pour moi, avait une grande signification. C'était l'année dans laquelle le frère Branham était venu en Allemagne et en Suisse, et le frère Gilbert se sent honoré de ce que, justement, c'est dans cette année-là qu'il vint dans ce monde, qu'il est né, et dans un temps où d'autres déjà étaient nés de nouveau. Et nous voulons simplement demander qu'il puisse venir et encore prier avec nous. Encore une fois, nous souhaitons à tous la bienvenue encore d'ici, par tous, partout où vous êtes et que vous écoutez en direct. Vous êtes liés avec nous et avec le Seigneur. Nous avons compris de quoi il s'agit. D'un côté, nous voyons l'union dans les domaines politiques religieux, une union mondiale. Il parle d'une union globale, d'amener tout sur une tête. Et ensuite, nous voyons aussi l'appel à sortir de l'Église de Jésus-Christ, unis sous la tête Jésus-Christ, que avec lui réellement, nous puissions en toutes choses être en accord. Et la paix parmi les hommes sur terre et le bon plaisir de Dieu, ça a été ce qui a été dit lors de la naissance de notre Seigneur. Ça a été le message que aux hommes sur terre, la paix avec Dieu soit accordée, et avec cela, le bon plaisir de Dieu puisse se reposer sur nous. Nous avons compris particulièrement quand nous lisons d'Enoch, il marchait avec Dieu et était le septième après Adam, et il ne fut subitement plus trouvé sur terre. Tous ceux qui vivaient avant nous, dans ces six âges de l'Église, nous ont devancés, mais nous, à la fin de ce dernier âge, nous allons expérimenter que nous ne serons pas d'abord dépouillés, comme Paul le dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, mais nous serons revêtus, transformés. Et vous savez que les morts en Christ vont d'abord ressusciter, et nous qui sommes restés vivants, nous jusqu'au retour du Seigneur, nous serons transformés et nous irons à sa rencontre. Lors de cette remarque que je faisais hier sur l'enseignement de l'évolution, peut-être qu'il faut qu'il soit encore dit que c'est un blasphème direct. Car il est écrit, n'est-ce pas, que Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, fut créé l'homme. C'est ainsi que c'est écrit. Et quand Dieu devint homme et fut trouvé comme un un homme, semblable à un homme, et marchait sur cette terre. C'est ainsi qu'il a pris notre apparence. Il était un homme comme nous. Circoncis le huitième jour, à 12 ans dans le temple, à 30 ans, commençant son ministère, et ensuite mourir pour nous sur la croix à Golgotha pour nous apporter la rédemption, le pardon, la grâce et le salut. Pour que, quand l'achèvement de son œuvre arrive, que nous soyons transformés à son image, car nous le verrons tel qu'il est, et nous lui serons semblables. Lui, le Fils de Dieu, et nous, les fils et les filles de Dieu, nous pourrions réellement à cela, sur cela, lire beaucoup de versets bibliques. Mais nous savons exactement, depuis presque 2000 années, le temps de l'explication et des informations est venu, le temps de se détourner de Dieu, de s'éloigner de Dieu, est manifesté quand nous pensons, n'est-ce pas, que Dieu, dans ces dernières 500 années, a accordé beaucoup de réveil. Et quand nous pensons à tous ces milliers de cantiques qui ont été faits dans les temps des différents réveils, aux têtes pleines de sang et de blessures, pleines de douleurs, de plaies et de honte, aux têtes couronnées de couronnes d'épines, quand nous pensons à tous ces cantiques merveilleux, et il y en a des milliers et encore des milliers, quand nous pensons à tous ces cantiques, comment est-ce que l'Esprit de Dieu a justement introduit dans ceux qui étaient croyants la reconnaissance, et il les a laissés exprimer leur reconnaissance par des cantiques, et que justement dans ce pays dans lequel nous sommes, l'Allemagne, dans lequel la réformation a eu lieu, qu'une telle chose se passe, c'est pour nous incompréhensible. Mais tel qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, au verset 3, que les moqueurs vont apparaître. De la même manière, il est écrit dans Jude, au verset 17 et 18, qu'il y aura des moqueurs qui apparaîtront, des hommes qui marchent dans leur propre désir, convoitise, et ils renieront le Seigneur. Dans un temps de la chute totale, dans un temps de se détourner entièrement de Dieu. Et soyez sincères, sur aucun fondateur de religion, il est fait des moqueries comme sur notre Seigneur. Tout ce qui est dit et écrit sur notre Seigneur est impensable. Mais comment est-ce que ce sera pour toutes ces personnes-là quand cette parole trouvera son accomplissement? Que devant lui, tout genou se fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Oh, comment est-ce que alors ce sera pour eux? Qu'est-ce qu'ils diront? Je pensais à une parole du prophète Zacharie. Et ça, je voudrais maintenant la lire, bien sûr, et faisant mention de nous en comparaison avec Israël. Je voudrais ici lire dans le prophète Zacharie les versets suivants. D'abord, Zacharie, le chapitre 2, au verset 16. Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 16. En français, c'est le verset 12. Zacharie 2, verset 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Ici, nous avons une vérité qui a été exprimée, qui est importante que nous lui donnons toute notre attention. Dieu va pas de nouveau posséder Judas quelque part comme ça, dans un endroit quelconque, mais là, sur la terre sainte, dans le pays de la promesse, dans ce pays qui a été choisi, dans la ville choisie par Dieu pour elle. C'est là qu'il la possédera, qu'il la recevra, qu'il agréera et qu'il fera d'elle sa possession. C'est là que les deux prophètes auront leur ministère. C'est là que les 144 000 de ces 12 tribus seront scellés. Et Dieu va, n'est-ce pas, posséder son héritage sur sa terre sainte, et cela à Jérusalem, pour l'honneur de son nom. Et derrière, il est écrit, « Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est levé de sa demeure sainte. » Silence soit fait devant l'Éternel, toute chair, et que toute chair respecte les décisions divines. Les décisions divines. Et nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons recevoir cette parole pour nous, dans notre cœur. Dieu va posséder son héritage, ses saints, pas quelque part, comme ça, dans un lieu quelconque, les agréer, les posséder, les recevoir, mais sur le saint, sur la sainte terre, sur la sainte terre de la révélation divine, de sa parole et de sa volonté. Et nous devons être dans la volonté de Dieu. Nous devons être introduit dans sa volonté si nous voulons être possédés et agréés par Dieu. Et souvent, nous avons eu à le dire. Beaucoup de personnes, des personnes qui veulent seulement eux être là pour la deuxième résurrection, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup, de s'occuper de beaucoup, seulement d'être sauvés, ça suffit. Mais celui qui veut prendre part à la première résurrection, à l'enlèvement, au repas de noces, et déjà être là pendant le millénium, et qui veut appartenir au troupeau des vainqueurs et régner avec Christ sur son trône, il faut que maintenant il puisse être attentif à ce que l'Esprit dit à l'Église. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Mais maintenant arrive le point important dans Zacharie, le chapitre 12, Zacharie, le chapitre 12, c'est-à-dire dans ce temps-là justement, dans lequel le Seigneur possède, rentrera en possession de son héritage sur la terre sainte qu'il a déterminée pour son peuple naturel. Et c'est ainsi que cela s'accomplira dans Jérusalem, ce qui est écrit dans Zacharie 12. C'est dans ce temps-là que cela s'accomplira, ici, à partir du verset 10. Zacharie 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de prière et de supplication. Et arrive maintenant. Et d'une manière qu'ils tourneront les regards. Et ici, la tradition luthérienne en allemand est mieux. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Au moment où Dieu rentre en possession de nous et que nous devenons son appartenance, alors nous regardons à celui qui a été percé, qui pour nous a été crucifié, pour nous, à celui qui nous a tant aimé profondément et qui a donné son sang, sa vie pour nous et pour nous sauver et pour faire d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. Si ici il est écrit, je posséderai de nouveau Judas et relis Zacharie 2 verset 12 et je choisirai de nouveau Jérusalem et ensuite dans Zacharie 12, verset 10, je répandrai de mon esprit sur toute chair, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et nous ne regardons pas non plus à un prophète. Les prophètes sont un ustensile, un outil dans les mains de Dieu. Ils sont le tuyau par lequel Dieu parle. Ils sont la bouche de Dieu. Mais nos regards sont fixés sur le Seigneur, sur le crucifié. Et nous avons ce souhait-là, réellement, d'être crucifié avec lui. Que le vieil homme, notre propre moi, soit avec lui, donné dans la mort, ait été donné dans la mort, pour qu'il puisse par nous vivre sa vie. Et ça aussi, nous avons eu à le comprendre, bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, quand il s'agit que des enseignements sont introduits qui ne sont pas bibliques, alors il y a toujours de nouveau la même chose qui se passe, c'est-à-dire ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 20. De votre milieu, de parmi vous, il y aura des frères qui s'élèveront et qui apporteront des enseignements étrangers. Ce qui se passe quelque part à l'extérieur ne nous dérange pas. Mais ce qui dérange, c'est toujours quand cela se passe et là où est-ce que ça se passe, c'est-à-dire parmi nous. C'est pour cette raison que nous devons être attentifs à l'enseignement. Et aussi, comme Paul le dit à Timothée, l'a écrit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 16. Sois attentif à toi-même. Fais attention à toi-même et à l'enseignement. Fais attention à toi-même et à l'enseignement. D'abord, dans Actes des Apôtres 20, verset 30, et 1 Timothée 4, verset 16, et 2 Pierre 2. Car la parole de Dieu, car nous revenons de nouveau à cette expression, Jérusalem, la parole de Dieu sortira de Jérusalem, pas de Rome, ou bien d'une certaine autre ville, mais de Jérusalem. Et tel que le Seigneur, autrefois, a ramené son peuple d'Israël sur le sol de la promesse, dans sa ville, dans son pays, sur la terre. Et c'est là qu'il rentrera en possession d'eux. C'est ainsi que maintenant, le Seigneur ramène l'Église de parmi les nations, et il entre en possession d'elle, parce qu'elle est revenue sur les promesses saintes de la parole de Dieu dans l'enseignement qui est sorti de Jérusalem réellement, et dans les promesses pour ce temps présent. Comme dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 42, et il demeurait dans l'enseignement des apôtres. Mais ce n'est pas tout. Dans Apocalypse, au chapitre 12, l'Église, au verset 1, nous est montrée avec une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Je peux bien me rappeler, alors qu'en 1954, Frère Branham avait parlé de cela, et avec toute puissance, il disait que l'Église du Nouveau Testament est couronnée de la doctrine de l'enseignement des 12 apôtres. Ça, c'est la signification de la couronne. Couronnée avec l'enseignement des 12 apôtres. Bien sûr que dans la dernière phase, Dieu, de nouveau, a utilisé un exemple que tous peuvent bien comprendre. Il a, n'est-ce pas, exprimé toutes choses en images, et il a dit toutes choses en images. Une femme en douleur d'enfantement, et elle fait naître un fils qui, n'est-ce pas, pètera tous les peuples avec une verge de fer. Et alors nous repartons dans Apocalypse 2. À la fin de chaque écrit, il est écrit que les vainqueurs régneront avec Christ et régneront avec lui. Donc nous sommes simplement reconnaissants à Dieu pour toutes les paroles, pour tous les différents contextes, pour tout ce qui est écrit dans la Sainte Écriture. Et c'est pour cette raison que nous avons aussi reçu cela dans notre cœur, cette parole qui est une règle que nous devons suivre. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. De ne pas sortir au-delà de ce qui est écrit. Nous restons dans le cadre de la parole de Dieu. Il n'y a pas une unique révélation qui sortirait de la parole, qui irait à l'extérieur et qui pourrait être élevé au-dessus des Écritures. Une telle révélation n'existe pas. Il y a seulement la révélation de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le respect et la crainte que Dieu nous a mis dans notre cœur, nous devrions pour cela lui en être très reconnaissants. De ce que réellement, en toute chose, nous respectons la parole. Si par exemple Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, dans les premiers deux versets, parle de ce que nous devons être dispensateurs des mystères de Dieu, que nous sommes dispensateurs des mystères de Dieu. Lisons cela ici. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et ensuite, le pont est fait au verset 7, 16, la deuxième partie, 1 Corinthiens 4, verset 6, peut-être nous lisons tout le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et maintenant arrive la raison, et elle est très claire pour nous tous. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si, par exemple, un frère prêche quelque chose qui n'est pas ce que l'autre a prêché, alors il y a une division, une prise de parti parmi le peuple de Dieu. Les uns vont croire ce que ce frère a dit, les autres vont croire ce que l'autre frère a dit. Et déjà, il y a une division dans l'Église. L'un doit dire la même chose que l'autre a dit, et l'autre doit aussi dire la même chose que l'autre a dit. Il faut que ce soit le même langage qui est parlé, qui est utilisé. Dieu, lui, sur chacune de ses paroles, il accordera toujours la même révélation et la même inspiration. Toujours on entend parler des, par exemple, des sept tonnerres. Et bien, mes frères et sœurs, il faut dans la réalité que dans toute la clarté, cela soit dit, que en ce qui concerne cela aussi, seulement les Écritures ont à être valables. Pas ce qui est dit, pas ce qui a été dit sur ce sujet, mais ce que les Saintes Écritures eux-mêmes disent là-dessus. Et cette fois-ci, elles ne disent rien justement là-dessus. Cette fois-ci, les Saintes Écritures ne disent rien là-dessus sur ce sujet. C'est peut-être que nous aussi, nous n'avons rien besoin de dire là-dessus. Si dans Apocalypse 10, il est écrit de sceller ce que les sept tonnerres ont dit et de ne pas l'écrire, alors Dieu n'a même pas voulu que cela soit prêché. Alors Dieu lui-même s'est réservé cette responsabilité de laisser s'accomplir cela quand le temps sera arrivé pour cela. Mais si aujourd'hui nous pensons, quand nous pensons aujourd'hui que tous ont une révélation là-dessus, sur les sept tonnerres, encore une fois, que cela soit dit avec insistance. Ici, il s'agit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, ce qui n'est pas écrit, ce n'est même pas dans ma responsabilité. Ma responsabilité est seulement de prêcher la parole écrite. Si ce n'est pas une parole qui a été écrite, alors j'ai même pas besoin de faire des fantaisies là-dessus, mais de rester attaché à seulement ce qui est écrit. Et en fait, tous les frères dans le monde entier, vraiment, encore une fois, dans toute la clarté, il faut que cela soit leur, faut que cela soit dit à tous, que toute interprétation réellement est une propre œuvre, est une propre œuvre, et ce que les hommes pensent et leur opinion. Et nous ne sommes même pas intéressés de tout. Nous sommes même pas, ça ne nous intéresse même pas. Ici, nous avons eu cela en tant qu'une parole du Seigneur, particulièrement pour tous les frères dans le ministère et cela dans le monde entier. Si, par exemple, dans Apocalypse, le chapitre 8, les premiers quatre anges de trompette sonnent de la trompette et que les premiers quatre jugements ont lieu, et ensuite, au chapitre 9, donc le cinquième et la sixième trompette retentit, et ce qui se passe nous est clairement dit. Et ici, nous avons particulièrement, et je voudrais que tous les frères qui servent le Seigneur dans le ministère le reçoivent dans leur cœur. Ici, nous avons dans la cinquième trompette, déjà le temps de la tribulation dans laquelle les 144 000 seront là, car ils sont les seuls qui, n'est-ce pas, pendant ce temps-là, portent le sceau de Dieu sur le front, et pendant ces cinq mois de torture, pendant le temps où la cinquième trompette sonne, ils seront gardés par la main de Dieu pendant ce temps-là où tous les autres vont souffrir pendant cinq mois d'une manière très terrible. Et c'est seulement après que la sixième trompette suit dans Apocalypse 9 à partir du verset 13. Et cela concerne déjà l'Irak. Cela concerne déjà l'Euphrate où ici les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes de l'humanité. Nous lisons ici dans Apocalypse 9 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15 dans tous les versets qui suivent. Et c'est seulement après, s'il vous plaît, qu'il est annoncé, et cela en relation, que l'annonce suit en relation avec l'ange de l'alliance avec l'arc-en-ciel sur sa tête et son pied comme donc un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. C'est seulement après, comme il est dit ici, il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la tête, sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Nous avons vraiment, et son pied est comme des colonnes de feu. En tant que l'Église naît du Christ, en tant que l'Église du Nouveau Testament, nous n'avons rien à voir à faire avec ce que Dieu va faire après l'enlèvement, et particulièrement avec des choses qui concernent Israël et tout ce qui appartient à cela. Et cela aura lieu dans l'époque après l'enlèvement. Et ce que les frères doivent aussi reconnaître est que Apocalypse 10 est seulement une annonce, et ce qui est écrit ici n'est pas encore l'accomplissement de ces choses. Mais Apocalypse 10 fait que annoncer que dans qu'au jour de la voix du septième ange, quand c'est l'annonce, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quand il le fera, en tant que donc révélé à ses serviteurs, en tant que message. Donc c'est seulement après que, au chapitre 11, après cette annonce, que le ministère des deux prophètes dans Apocalypse 11 suit, n'est-ce pas, du verset 1 au verset 17, et à partir du verset 15, nous avons la description de ce qui se passe quand justement ce qui a été annoncé dans le chapitre 10 s'accomplira et que le septième ange réellement sonnera de la trompette. Oh mon Dieu, je me demande, est-ce que cela est si difficile de donner raison seulement à Dieu? Est-ce que c'est vraiment difficile de respecter l'ordre de la parole de Dieu et de croire comme les Écritures l'ont dit? Est-ce que c'est vraiment difficile de revenir à la parole de Dieu, d'abandonner nos opinions et de respecter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite? Si auparavant, nous avons lu que nous n'avons pas le droit de sortir au-delà de ce qui est écrit et de croire comme le dit les Écritures, alors qu'est-ce qui doit se passer alors avec ce qui n'est même pas écrit?
Si déjà avec ce qui est écrit, nous n'avons pas le droit de sortir au-delà de cela, qu'est-ce qui doit se passer avec ce qui n'est même pas écrit? Mes bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons parler clairement et ouvertement au nom du Seigneur, et de respecter l'ordre de la Bible et de ne pas permettre une petite place pour ne serait-ce qu'une petite interprétation, mais que la parole originale soit respectée de tous. Et en tout sujet, nous devons seulement respecter ce que les saints écritures disent. Et nous avons dans l'Apocalypse, le chapitre 11, d'une manière très claire. À partir du verset 15, que quand le septième ange sonnera la trompette, alors ce sera, n'est-ce pas, l'accomplissement. Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde, pas l'enlèvement, mais le royaume du monde, s'il vous plaît, est remis à notre Seigneur et à son Christ, à son oint, et il règnera au siècle des siècles, donc pour toute éternité. Ça, c'est le contenu. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Et c'est ainsi que cela sera. Donc, au siècle des siècles. Et c'est à ce moment-là, lisons à partir du verset 18, ou bien 16 d'abord, et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession. Et pris possession de ton règne. Auparavant, nous lisons toujours concernant celui qui est et qui était et qui vient. Mais ici, nous ne lisons plus qui vient. Mais ici, nous avons sa venue déjà représentée devant les yeux. Tu es entré en possession de ton règne. Car tu as saisi ta puissance. L'expression ici, et qui vient, n'est plus écrit ici. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement. Oh bien, mes frères et sœurs, dans toute la parole de Dieu, nous avons la volonté de Dieu révélée avec l'Église, avec Israël, tous les différents contextes. Mais il faut qu'il soit laissé dans le contexte là où il est écrit, car c'est là leur place. On pourrait ici continuer à lire, mais revenons à ce qui nous concerne en tant que personnes qui suivent le Seigneur et qu'il veut être prêt lors du retour de Jésus-Christ. Il y a ces expressions particulièrement dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père l'attire premièrement. Et tous ceux qui viennent à moi, je leur accorde la vie éternelle. Et ensuite, notre Seigneur dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, il s'adresse à ceux qui sont des Écritures, mais qui ne viennent pas à lui. Et c'est là que continue tout le grand problème. De sonder les Écritures, c'est une chose, mais de venir au Seigneur et de réellement recevoir par lui la parole révélée, ça c'est tout à fait une autre chose. Ici, dans Jean chapitre 5, nous lisons peut-être les deux versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Car c'est en lui qu'est la vie. Et la vie, est la lumière des hommes. Donc, il s'agit de revenir à la parole, de revenir au Seigneur et de suivre le Seigneur et vraiment de seulement croire tout comme le dit les Écritures. Pas comme le dit un frère, mais comme le dit les Écritures. Et souvent, nous avons eu à le dire. Entièrement, réellement tout. Ce qui a affaire à la, ce qui est lié à la rédemption et avec, donc, entre le rédempteur et les rachetés, tout est déjà écrit dans les Saintes Écritures. Tout ce qui concerne les rédempteurs et les rachetés. Et il y a toujours une réalité divine. Jamais une interprétation était nécessaire. Mais tout s'est accompli tel que c'était écrit. De sa naissance, de la naissance de notre Seigneur, par sa vie, son ministère, sa souffrance et sa mort, jusqu'à sa crucifixion, la condamnation a été mise sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtres sûrs, nous sommes guéris. Tout était une réalité. Je voudrais encore insister là-dessus. La naissance de notre Seigneur était une réalité. Sa souffrance, sa mort était une réalité. Le fait qu'il soit allé dans les endroits infernaux, la terre, c'était aussi une réalité. La victoire sur la mort et l'enfer et le diable, c'était une réalité. Sa résurrection était une réalité. Ce n'était pas une interprétation ou bien une doctrine. Et son retour sera aussi une réalité. Si alors des frères disent, à cause d'une seule et unique citation qu'ils ont encore mal compris et interprété après l'avoir mal compris, que le message est l'appel de 1 Thessaloniciens 4, est le cri de 1 Thessaloniciens 4, où il est dit que le Seigneur lui-même descendra avec le cri de commandement et la trompette. Et il y a quelqu'un qui disait, et frère Branham disait, que le cri d'appel est le message. Et à cause de cela, donc à cause de cette expression que Frère Branham a dit, le cri de commandement est le message. Alors à cause de ça, ils disent que le Seigneur descend depuis ces années-là, doucement, etc. Et que le trône de jugement, le trône de grâce s'est détourné et s'est transformé en trône de jugement. Pourquoi? Parce qu'ils prennent une seule citation du prophète, il le sort de son contexte, il ne le redonne même pas, n'est-ce pas, dans son entièreté. Il sort de son contexte et ils en font un enseignement qu'on ne peut comprendre. Ils le propagent partout et ils disent que le Seigneur est en train de descendre depuis. Mais, oui, mais combien de temps est-ce que sa descente devrait encore durer? Si les Saintes Écritures disent que comme l'éclair de l'Est apparaît et éclaire jusqu'à l'ouest, c'est ainsi que sera le retour du Seigneur. Ça ne dure pas 40 ans. En un seul instant, on a même à peine vu déjà, il est là et c'est déjà l'enlèvement a eu lieu. Non. La parole de notre Dieu demeure éternellement. Et toutes les interprétations auront leur fin. Pour nous, c'est une grande douleur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enseignées et propagées partout, qui en tant que message sont désignés. Le message est seulement dans ce livre, la Bible. Et tout ce qui n'est pas en accord avec ce livre, la Bible, n'est pas message de Dieu. Ça pourrait être le message d'un frère de New York ou bien d'une autre ville, ou bien le message d'un certain frère d'une autre ville quelconque ou bien d'un pays. Mais le message divin qui vient de Dieu est seulement et uniquement dans les Saintes Écritures. Et bien, mes frères et sœurs, ouvrons encore ces versets merveilleux dans Hébreux et voyons ce que cela veut dire. Que notre Seigneur a rendu témoignage et que tous ses serviteurs et prophètes, ils ont dit à l'avance ce qui allait s'accomplir et comment est-ce que dans ce temps, nous avons la grâce de le voir de nos yeux. Particulièrement, déjà, dans Hébreux, le chapitre 2, ici, et concernant notre Seigneur et le commencement de son ministère, il est fait mention. Et il est montré comment est-ce que la nouvelle alliance et ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait promis, a pris son cours, et cela depuis le commencement, depuis son commencement. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur. Ce salut qui, dont l'annonce a pris son commencement avec le Seigneur en allemand, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Selon sa volonté. Tel que le commencement était, c'est ainsi que la fin sera. Dieu va confirmer sa parole. Nous n'avons pas seulement un rappel à ce qui s'est passé. Ça, c'est le modèle divin ici dans la Bible. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons la grâce réellement de nous attribuer cette pensée que l'Église devienne une tente d'assignation, un lieu où le Seigneur se révèle. Et je vous dis, si dans la foi, nous sommes unis et dans l'esprit, et cela en accord avec Dieu et sa parole, dans l'amour avec envers lui et les uns avec les autres, nous sommes réunis de cette manière, dans l'amour, les uns avec les autres et avec dans l'amour pour le Seigneur. C'est ainsi que l'action surnaturelle pourra être possible là. Et ça peut déjà aujourd'hui commencer. Cela ne dépend pas de moi, cela n'est pas en mon pouvoir, mais cela est dans le pouvoir de Dieu le Seigneur. Et notre Seigneur lui-même a dit très clairement, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la prédication de notre Seigneur au commencement? Les liés ont été déliés. Les prisonniers ont été délivrés. Quand nous pensons à Luc chapitre 4, et en relation avec cela, à Ésaïe 61, et que la même chose doit maintenant s'accomplir. Ceux qui sont liés doivent être déliés. Ceux qui sont perdus doivent être sauvés. Ceux qui sont malades doivent être guéris. Des gens qui sont possédés de certains esprits méchants et démons doivent être délivrés. Ça, c'est le message divin. Le message divin et son effet. Et je le lis ici dans Luc, chapitre 4, à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle, un message qui rend joyeux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est le message divin encore aujourd'hui. Pas un message où on se dispute sur certains mots et paroles et citations, mais le message de la croix, le message de la réconciliation. Et ça, je le dis maintenant avec une douleur intérieure. Beaucoup de frères qui ont des fausses doctrines et qui se tiennent sous une influence étrangère ils n'ont pas expérimenté sûrement une nouvelle naissance de la semence incorruptible de la parole de Dieu. C'est seulement au moment où nous avons réellement par l'Esprit de Dieu la relation avec Dieu. C'est comme ça que la révélation qui vient de Dieu sera possible qu'elle nous soit accordée. C'est impossible que d'un côté, certains disent que nous sommes nés de nouveau. Et d'un autre côté, ne pense même pas, n'est-ce pas, à laisser seulement la parole de Dieu avoir raison. La parole, elle, est justement la semence. Et le frère Rousse, ou bien quelqu'un, peut-être que tu peux m'amener ce tableau-là dans le bureau avec peut-être que le frère Schmitt peut me la donner, le tableau avec les deux semeurs. On doit le dire ouvertement. Celui qui est envoyé de Dieu, il apportera les paroles de Dieu, il dira les paroles de Dieu, il prêchera les paroles de Dieu. C'est par la prédication qu'on reconnaît est-ce que quelqu'un est envoyé par Dieu ou pas. Je ne sais pas qui c'était, mais ils m'ont offert cette photo, ce tableau. Cette photo, mais ce n'était pas justement comme ça en mémoire, mais c'était pour observer pour nous tous. Ici, il y a le semeur qui sème la bonne semence. Et vous devez être bien attentif et pour voir le semeur qui est derrière le bon semeur. Derrière le bon semeur. Il reste dans le noir et il est obscur, sombre, et il va derrière le bon semeur et il sème sa propre semence. Deux semences tout à fait différentes, mais dans le même champ. Et c'est peut-être raison qu'il est dit que c'est en leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ici est le point, bien-aimés frères et sœurs, et la réalité divine. La vraie parole de Dieu suit d'abord premièrement. Vient d'abord, premièrement, c'est seulement après elle que suit l'interprétation. Et tous les véritables serviteurs de Dieu que le Seigneur envoie viennent et portent sa merveilleuse parole. La semence précieuse, il la porte, il la sème sous des larmes, mais il sème la semence précieuse. Et ensuite, il y a des frères qui suivent, qui n'ont pas d'appel, qui peut-être ont le don de parler, ou bien alors ont assez de dollars pour payer un billet d'avion. Mais cela ne veut pas dire qu'on a reçu la permission de Dieu de voyager. Et de tels frères-là viennent toujours avec des interprétations et c'est eux qui apportent la confusion. Mais Dieu soit remercié de ce qu'il y a des hommes sur terre encore aujourd'hui qui, n'est-ce pas, ont écouté la voix du Seigneur. Des hommes qui prêtent l'oreille à ce que l'Esprit, pas ce qu'un frère, mais à ce que l'Esprit a à dire à l'Église, et cela par les Écritures. Chaque interprétation, déjà de loin, ils le rejettent. Et ils acceptent, ils reçoivent seulement la semence incorruptible de la parole de Dieu. Pour le dire sincèrement, si on posait la question à tous ces frères-là, qui dans le monde entier, eux, voyagent, si on leur demandait, quand est-ce que le Seigneur les a appelés? Et où est-ce qu'il les a appelés? Et qu'est-ce qu'il leur a dit lors de leur appel? Et je vous dis qu'il y aurait un grand silence. Il y aurait un grand silence. Et c'est en cela qu'est le problème. Quand le Seigneur, par exemple, dit, si j'envoie quelqu'un, d'abord, il faut que le Seigneur ait prononcé l'appel. L'envoi. C'est seulement après que le Seigneur ait prononcé l'envoi de sa bouche qu'on a le droit de partir. Ça, c'est le modèle biblique. D'abord, comme c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, d'abord, le Seigneur a prononcé un envoi et c'est seulement après que l'envoi a suivi. Vous pouvez aller à Paul lors de son appel. Il lui a été dit pour que tu puisses reconnaître la volonté de Dieu et que tu puisses l'a révélé à tous les peuples tel que tu as été révélé. Un envoi selon la parole de Dieu est dans la volonté de Dieu pour apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu et de conduire de cette manière le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu. Tous les envois que Dieu a toujours donnés ont été donnés pour que le peuple de Dieu soit ramené au Seigneur et soit conduit dans la volonté de Dieu et ramené dans l'ordre de son salut en accord avec sa parole. Et c'est peut-être raison que Jean-Baptiste était le premier homme qui a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes sont allés jusqu'à Jean et c'est à partir de là que le royaume de Dieu a été prêché. Mais il était un homme envoyé de Dieu avec un message divin adressé au peuple de Dieu, pas pour sonner sa propre trompette et ouvrir son propre chemin, mais prêcher la parole de Dieu pour conduire époux et épouse ensemble et pour frayer le chemin du Seigneur. La même chose est encore le noyau du message divin aujourd'hui qui nous a été apporté par Frère Branham, comme il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et ça, nous le croyons tous, de tout notre cœur. Et si cela est ainsi, dites Amen. Et encore plus à haute voix. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Mais je suis sincère. Je ne crois pas une seule et unique interprétation. Je ne pense même pas à le faire. Dans le futur, de croire et accepter une interprétation. C'est pour cette raison que nous avons toujours de nouveau la même demande adressée au peuple de Dieu. Ne croyez pas tout esprit, mais examinez d'abord les esprits. Quand nous pensons par exemple à tous ces, si nous lisions encore tous les versets, Pierre ne parle pas seulement de faux prophètes, il parle aussi de faux docteurs. Aussi de faux docteurs. Ici, il est écrit dans 2 Pierre, le chapitre 2, verset 2, verset 1. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 et 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui, ils renient le maître, le Seigneur, qui les a rachetés avec ce qu'ils prêchent, avec ce qu'ils enseignent. Pourquoi? Parce que ils ne restent pas dans sa parole, mais ils vont au-delà de ce qui est écrit, ou bien ils tordent la signification des Écritures. C'est en cela qu'ils renient le maître. Donc, résumons de quoi il s'agit. Dans nos jours, il n'y a pas seulement beaucoup de choses qui sont changées à la Bible et transformées et traduites différemment. Dans nos jours, nous avons aussi le point culminant de la confusion et de l'égarement. Et ici est le point duquel il s'agit pour nous. Selon notre connaissance de la parole de Dieu, l'Église épouse sera appelée à sortir et sortira de tout Babylone et de toute cette confusion. Elle revient dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, elle est sanctifiée et préparée, et cela sous le couvercle du sang de l'agneau, pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec quel droit Satan se permet encore, d'une manière nouvelle, parmi ceux qui sont sortis et qui ont été appelés à sortir, d'infiltrer des doctrines et des interprétations qui ne sont pas témoignées par les Écritures et la Bible. Et s'il vous plaît, je vous demande à tous de prier, de me soutenir et que nous puissions rester fermes et prendre position seulement pour la parole de Dieu et réellement nous revêtir, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6, méditez là-dessus et priez le Seigneur pour cela, pour que nous soyons entièrement revêtus. Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En fait, il y a un évêque à Bayern, il a constaté que les écrivains de cette nouvelle Bible, n'est-ce pas, ils ont rendu les choses agréables pour les femmes. Ils ont appelé Dieu père et mère. Et plus aime ton prochain, mais aime ta prochaine et tout ce qui est écrit. Et cet évêque-là écrit, j'ai seulement attendu jusqu'à que la Bible vraiment soit entre mes mains. Et alors, je voudrais lire ce qu'ils ont fait avec le diable. Et ils l'ont laissé masculin. Ils l'ont laissé. Ces 42 femmes-là ont laissé le diable masculin. Comme c'est écrit ici dans la Bible. L'évêque a vraiment lu. Il l'a mentionné, je crois, que dans 2 Pierre. Je crois que c'est dans 1 Pierre chapitre 5, où il est dit que le diable vient comme un lion. Il voulait voir si elles auraient dit lionne. Comme un lion rugissant, il cherche à voir qui est-ce qu'il pourrait engloutir. Et là, ils ont laissé réellement cette écriture telle qu'elle est écrite ici, dans la Bible. Et ils n'ont pas appelé lion, mais ils l'ont laissé lion. Il a constaté cela. Ici, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5. Mais ça, c'est justement seulement en parenthèse. Nous avons le devoir de tout notre cœur croire la parole de Dieu originale et tout le reste, le rejeter aussi de tout notre cœur et de nous revêtir de toutes les armures de Dieu et de rester dans la vérité. Et ça, nous le pouvons seulement si nous voulons, s'il vous plaît, repousser les flèches enflammées du diable, c'est seulement avec la parole. Mais il y a quelque chose qui est nécessaire ici à dire. Aussi à notre Seigneur, l'adversaire est venu avec le « ainsi dit le Seigneur », avec le « il est écrit, il est écrit ». Cela m'a étonné de ce que le Vatican, particulièrement Apocalypse 15, il n'y a pas longtemps, a beaucoup insisté sur ce chapitre. Ils ont vaincu et ils sont sur la mer de verre, etc. Et aussi de la même manière, Apocalypse 19, concernant le repas des noces de l'agneau. Il a aussi parlé ici de l'épouse dans Apocalypse 19. Mais le Vatican n'utilise jamais le chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse. Là, il laisse ces deux chapitres-là. Le chapitre 17 et le chapitre 18, il l'utilise jamais. Il ne le considère même pas. Bien, mes frères et sœurs, beaucoup pourrait être encore dit. Je le répète encore. Tous, fondamentalement tous, vont glisser dans la séduction. Si ce n'est que Dieu nous fait grâce pour que nous puissions reconnaître la vérité. Et c'est seulement la vérité qui libère. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Encore ce verset dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi puisque ce combat continue encore. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout sur montez. En amont, il est dit encore, revendiquez ce qui nous possède. Pour revendiquer ce qui nous possède. Ça, c'est ce qui nous appartient, ce qui nous appartient. Sans ce revêtement, nous ne pouvons pas, nous ne pourrons jamais. Mais avec, en étant revêtu de la puissance d'en haut, cela sera possible avec l'aide de Dieu. Notre prière, c'est que tous puissent recevoir la clarté par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Que ce ne soit pas un qui serait obligé d'enseigner l'autre, mais que tous soient enseignés de Dieu. Et que tous puissent réellement être introduits dans le conseil du salut de notre Dieu. Et que réellement, par la révélation, nous voyons les choses telles que dans les Saintes Écritures, c'est écrit et promis. S'il vous plaît, pensez à la parole que Dieu possédera Israël seulement sur la terre sainte, dans le pays promis, Jérusalem, dans le pays de la promesse. C'est là qu'il les recevra, qu'il accepte, qu'il les agréera. C'est là que le ministère des deux prophètes sera. C'est là que le scellement aura lieu. C'est là que l'appel à sortir aura lieu des 144 000. De la même manière avec nous, nous demeurons dans la parole de la promesse pour ce temps. C'est là que Dieu rentrera en possession de son peuple. Pas en état dans des interprétations, dans des opinions, dans ce qu'un frère enseigne, etc. Non. Mais, de la même manière, comme cela est à trouver dans tous les réunions charismatiques sur toute la terre, que cela soit aussi dit ici. Tous ont leur propre programme. Mais le peuple de Dieu est introduit dans le conseil du salut de notre Dieu, dans son plan du salut. Et ici, à cet endroit, toujours de nouveau, nous disons que maintenant, réellement, nous avons reçu la grâce de Dieu de reconnaître la dernière partie du plan du salut, de l'histoire du salut, en direct ici sur terre. De reconnaître la dernière partie de l'histoire du salut. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qui de vous aurait, il y a 400 bien 200 années d'ici, vouloir vivre, et que cela ne serait pas une autre décision de vivre aussi dans ce temps? C'est vrai que tous, quoi que nous devons passer tous par des épreuves et des moments difficiles, ça, c'est clair pour tous. Tel que Israël, dans le domaine terrestre, a fait que passer par des problèmes. Pendant tout leur voyage, ils sont passés par des difficultés. C'est ainsi que nous aussi, nous qui n'appartenons pas à ce monde, nous, notre demeure n'est pas ici sur cette terre, notre maison est là-bas dans les cieux. C'est ainsi que nous aussi, nous avons des épreuves à surmonter que beaucoup qui sont épargnés de beaucoup d'autres. Mais que Dieu soit remercié pour les épreuves dans lesquelles nous avons la possibilité d'être testés comme de l'or jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Les promesses de Dieu demeurent éternellement et ne s'éprennent jamais. Car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il a promis dans sa parole. Le ciel et la terre passeront, les collines et les montagnes disparaîtront, mais celui qui croit trouvera que la parole de Dieu demeure éternellement vraie. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu, elles sont en Jésus-Christ, notre Seigneur, par nous, oui et amen. Pas sans nous. Là, il est écrit par nous, en lui, par nous. Nous demeurons, nous appartenons à cela. Nous sommes enfants de la promesse. Croyons la parole de la promesse. Et avons le message, nous avons reçu le message divin qui devait être précurseur du retour du Christ. Nous l'avons accepté, reçu. Et réellement, il va dans le monde entier. Il est porté dans le monde entier. Et cela, avant le retour du Christ, maintenant. Et que Dieu puisse, dans les différents pays, bénir tous les frères et bénir les pieds de ceux qui apportent le message divin. Aussi nos frères des pays voisins, nos frères ici, dans notre pays, tous ceux qui, avec véracité, portent la parole de Dieu, qu'ils puissent être bénis et que leurs pieds soient bénis, comme c'est écrit dans le prophète Ésaïe. Pendant ce week-end, nous n'avons pas demandé est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont présents qui auraient le désir de se laisser baptiser, d'être baptisé de manière biblique. Si cela est le cas, alors nous aurions aussi aujourd'hui la possibilité de le faire, sinon nous pourrions encore attendre. Mais la question serait peut-être adéquate maintenant. Avons-nous quelques frères et sœurs qui voudraient se laisser baptiser? Alors levez courtement les mains, brièvement les mains. S'il y a seulement un seul frère, alors nous allons le remettre à Philippe pour qu'il puisse donc quelque part le baptiser. S'il y en a plusieurs, alors nous allons avoir le baptême. Donc attendons un peu jusqu'au baptême. Que Dieu le Seigneur, si ce n'est que le frère, a vraiment le désir de se baptiser, qu'on le baptise aujourd'hui, sinon c'est possible. Sinon, nous acceptons tout comme Dieu, comme le Seigneur conduit. Bien, mes frères et sœurs, nous venons à la fin de ce week-end et nous allons consoler dans la foi totale de l'avant. Nous savons en qui nous croyons. Nous savons aussi qui est-ce que nous croyons et en qui est-ce que nous avons mis notre confiance, tel que Paul autrefois l'a écrit. Je sais en qui je crois. Et la même chose, nous pouvons le dire aujourd'hui. Nous savons en qui nous croyons. Qui est-ce que nous croyons? Qui est-ce que nous suivons? Et à qui est-ce que nous appartenons par sa grâce? À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'adoration, maintenant et dans toute éternité, pour sa parole sainte et ordonnée. Jusqu'à dans tous les petits détails, les petits iota. Ici, la parole de Dieu est ordonnée. Chaque chose est à sa place précise. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes conduits dans toute la vérité. Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous levons encore pour la prière. Je ne sais pas, est-ce que les sœurs auraient encore un cantique qu'elles pourraient chanter pour l'honneur du Seigneur? Nous sommes ici pour consacrer de manière nouvelle notre vie à Dieu, pour être prêt pour le retour du Seigneur. Et ce sont des cantiques qui touchent nos cœurs et elles sont aussi selon la prédication. Alors nous voulons remercier Dieu, nous voulons persévérer dans la prière et Dieu le Seigneur va rendre toutes choses merveilleuses. Loué et exalté soit son merveilleux nom. Oui.
Ja, auch singt, was euch auf dem Herzen ist, ist ja gut, ist ja gut. Mein Gott, ja.
Dice facis, Joher Jesu, du nur sollst mein Führer sein.
Seigneur Jésus, que toi seul, tu sois celui qui me conduit. Mon âme, mon esprit et mon corps t'appartiennent. Seulement la foi, le chemin de la foi est sûr. L'adversaire ne peut l'atteindre. Ce chemin brille, même dans l'obscurité.
Leuchtet stets auf meinen Pfad, so kann ich nicht mehr abirren, denn mich leitet seine Gnade.
Sa grâce me conduit, je me prosterne devant sa croix. Seulement la foi, le chemin de la foi est sûr. L'adversaire ne peut l'atteindre. brillant de la lumière de Dieu claire, même quand tout semble obscur. Même quand on craindrait de regarder et qu'on passe par des chemins difficiles. Je regarde le sacrifice et je ne permets à rien de m'effrayer. Seulement le chemin de la foi est certain. L'adversaire ne peut l'atteindre. Car mon Sauveur l'a promis que rien ne peut me nuire. Sa sagesse et sa volonté. J'en suis entièrement soumis.
Amen.
À cela s'ajuste la parole de notre Seigneur. Celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et aussi cette parole, ils tourneront le regard à celui qu'ils ont percé. Nous regardons à Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui le crucifié, qui nous a apporté le salut, à lui qui est mort et qui ensuite a vaincu la mort et qui a ôté la puissance de l'enfer et toutes les principautés des ténèbres du diable. Il les a vaincus et sa victoire est notre victoire. La foi que Dieu, par la parole, par sa grâce, nous accorde, est la victoire qui a déjà vaincu le monde. La foi est fondée dans la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'elle ne peut s'ébranler, mais elle demeure ferme et nous faisons comme Abraham. Nous ne regardons pas aux circonstances, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, comme si nous le voyions. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, aujourd'hui nous voulons ensemble remercier Dieu. Et nous voulons, dans la foi, ensemble lui dire merci, lui demander qu'il puisse veiller sur sa parole et sur tous ceux qui portent sa parole, qui ont sa parole dans leur cœur, qui croient, tel que le dit les Écritures, et qu'il puisse, à nous et toute l'Église, nous conduire, nous aider dans la pleine victoire, et que nous aussi nous puissions passer de la foi à la vue. Pas seulement lors du retour du Seigneur, ça de toutes les manières, mais déjà maintenant, que nous puissions croire et regarder à ce que Dieu a promis pour l'Église, avec toutes les bénédictions qui appartiennent à cela. Notre Seigneur est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Nous voulons maintenant le faire ensemble, et remercier le Seigneur. Frère Rousse, viens et remercie ensemble avec nous. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur aussi pour ta parole ce matin. Tu parles de manière claire de ce que chacun puisse comprendre. Reçois la louange. Reçois l'adoration et la reconnaissance de nos cœurs et de notre bouche. Tu nous appelles, tu nous prépares pour ton retour. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs, bénis tous ceux qui sont venus. Que ta volonté soit faite. Nous te demandons tout cela dans ton saint nom. Conduis-nous à revenir encore dans ta bénédiction. Loué et exalté sois-tu. Ton nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Louez la puissance de sa parole. De sa parole. De son sang et de son esprit. Car Dieu agit parmi nous. Dans le troupeau racheté par le sang. Par sa sainte parole. Par son Saint-Esprit. Alléluia. Oh bien-aimé Seigneur, je te demande que tu puisses accorder la révélation par ton esprit. La révélation par ton esprit de la parole. Que tous puissent demeurer dans les Écritures. Que personne puisse sortir au-delà de la parole écrite. Mais que chaque interprétation, nous puissions la refuser. Ô Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec ton Église. Couronne-nous de grâce et de miséricorde. Encore une fois, nous te demandons, sauve ceux qui sont perdus, guéris ceux qui sont malades, délivre ceux qui sont liés, que à la fin puisse s'accomplir ce qui s'est passé au commencement. Que l'onction et la puissance du Saint-Esprit puissent se reposer sur nous tous. Loué et exalté sois-tu, Seigneur, notre Dieu, maintenant et dans toute éternité. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour toutes les promesses. Je te remercie aujourd'hui pour tous les frères et toutes les sœurs, pour tous ceux qui s'ajoutent, que par ton esprit, ils soient conduits dans toute la vérité. Ô grand Dieu, adoration et honneur te soient apportés. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé Seigneur, béni dans toutes les langues, les peuples et les nations. Et sois avec nous tous. Alléluia. 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 Chantons encore, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur. Cette parole encore me vient de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. car la joie dans le Seigneur est notre force. Le fondement de la maison de Dieu a été placé, a été retrouvé. Ils n'avaient plus besoin d'être tristes, ils pouvaient se réjouir. Nous aussi, nous avons par la grâce de Dieu retrouvé le fondement et personne ne peut placer un fondement en dehors de celui qui a été déjà placé. Et nous bâtissons sur le fondement original des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et son Église est le pilier et l'appui de la vérité. C'est dans cela que cela restera jusqu'à la fin. Asseyez-vous encore pour un moment.